Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vocation Maritime. La pêche, le commerce, les cultures marines ou encore la plaisance, des termes qui nous semblent bien souvent familiers sans réellement savoir ce qui se cache derrière. Et pourtant, ce sont bien des milliers de personnes en France qui se lèvent chaque jour pour s'engager dans les métiers de la mer, qui sont souvent des métiers de passion. Pour mieux comprendre ce milieu souvent méconnu, nous allons rencontrer des personnes qui ont fait le choix du maritime. Élèves, anciens élèves devenus professionnels, enseignants, tous en lien avec les formations du lycée maritime de Cibourg, dans le Pays Basque, qui est l'un des 12 lycées maritimes du territoire français. Ils nous expliqueront leur vision des métiers de la mer, leurs attentes et ce qui les motive chaque jour dans la pratique de ces métiers riches et engageants. Pour ce dernier épisode, nous retrouvons Jean-Philippe Titeau, directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique. Après des études assez diversifiées qui se sont achevées en 2004 à l'école d'administration des affaires maritimes, il a occupé de nombreux postes au sein des administrations maritimes sur les côtes françaises, dans les services déconcentrés ou bien au sein de l'administration centrale des ministères de la transition écologique ou de la mer à Paris. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours aussi riche que diversifié avant de s'attarder sur les nombreuses missions de la DIRM et de son quotidien en tant que directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique. Donc bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à vous.
Donc comme traditionnellement dans les podcasts, on va d'abord commencer par votre parcours. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours tant en tant qu'étudiant que professionnel?
Oui, alors rien me destinait à la mer. Hein. Je suis né à Saint-Étienne au milieu des terres et absolument rien me destinait à la mer, si ce n'est que un jour par hasard, je suis tombé sur le concours d'administrateur des affaires maritimes. Et ce qui m'a tout de suite plu, c'était la formation. Une formation en 3 ans qu'on avait. Je venais d'un parcours, moi, plutôt de droit, de sciences politiques.
D'accord.
Et cette formation, elle m'a plu parce qu'elle résumait très très bien ce qu'est le métier après. C'est une formation très transversale, à la fois sur du juridique, à la fois sur du technique. Une première année qui était composée d'embarquement, embarquement aussi bien sur les navires de la marine nationale, embarquement sur des navires de pêche, sur des navires de commerce, une formation pratique, stabilité du navire, une formation qui passait par l'appréhension de tous les différents aspects du monde maritime, parce que on parle souvent de l'économie maritime, mais ce sont des économies en fait qui sont les unes à côté des autres, qui partagent le milieu, qui partagent parfois des valeurs, mais qui, dans le fond, sont des mondes assez isolés et à part. Et notre métier, justement, c'est de faire le lien entre ces différents univers. Et donc, la formation traduit très bien ce lien. Et puis, une deuxième année qui était plutôt beaucoup plus juridique, elle. Voilà, et sur des sujets techniques. Et donc, ce qui m'a fasciné, je suis rentré à cause de cette diversité et dans la formation. Et le métier, par la suite, n'a pas démonté cette promesse de diversité.
Parce qu'effectivement, oui, comme vous le disiez, initialement, c'est plus une formation de droit, assez Sciences Po, je crois.
Oui.
Vous avez fait Sciences Po, puis après les affaires maritimes.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a un parcours universitaire avant. Effectivement, Sciences Po, préparation au concours administratif. Et puis après, donc, cette formation spécifique à la fonction publique, une école de la fonction publique qui prépare à occuper nos métiers.
D'accord.
Après, pour être honnête, les premiers postes sont des premiers postes, mais font partie intégrante de la formation. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'entre mon entrée dans l'administration il y a 20 ans et maintenant, j'ai quelque part passé mon temps à me former.
D'accord. Et après, du coup, voilà, vous enchaînez les différents postes au sein des... Donc, comme je l'évoquais juste avant, sur les services déconcentrés
alors voilà,
sur les côtes françaises.
C'est une carrière donc, qui s'est passée entre l'administration centrale et les services déconcentrés. J'ai commencé une première partie de carrière dans les services déconcentrés, un premier poste à Boulogne-sur-Mer, en charge de la police des pêches, de la réglementation des pêches, également de la conchyliculture, mais de plein de projets transversaux, également comme le développement intégré des zones côtières et en particulier de la baie de Somme. C'est une expérience qui a été très riche, qui m'a permis d'ailleurs d'aller à Bruxelles pour parler du plan de gestion du cabillaud à un moment. Et une expérience de 3 ans, mélangeant le terrain en allant faire du contrôle de nuit, y compris des contrôles braconnage, des contrôles en mer, et en même temps toute l'activité de bureau qui va derrière et de coordination. Donc un métier très prenant.
Oui, déjà une activité très diversifiée au sein d'un seul métier.
Exactement. Et j'ai même à ce moment-là eu l'occasion d'être, alors chose qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui, mais administrateur enquêteur, c'est-à-dire juge d'instruction, sur la base d'un abordage qui avait eu lieu en mer sur au large de nos côtes.
D'accord. Voilà.
Donc, de cette expérience, ensuite, je me suis rendu à Rennes. À Rennes, bon, c'est plus loin de la mer, mais sur une région éminemment maritime où je me suis occupé de l'économie des pêches, beaucoup.
D'accord.
Et donc, quelque chose de particulièrement intéressant avec le nombre d'armateurs à la pêche en Bretagne. Dans une période de transition, vu que c'était en 2008, c'était une période de crise à la pêche déjà. Et c'était extrêmement intéressant de voir la diversité des situations dans lesquelles se trouvaient les armateurs et la diversité des solutions qu'on a dû créer avec eux. Et avec les banquiers à l'époque également, et tout le secteur économique, pour trouver des solutions à la crise qu'ils traversaient à ce moment-là. Puis de Rennes, j'ai été à Caen, à la direction départementale des affaires maritimes, qui était devenue et qui était en phase de devenir une direction des territoires et de la mer. Et là, je me suis beaucoup plus occupé de questions portuaires, de questions de littoral.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'était également une partie intéressante. Voilà.
D'accord. Donc, déjà, c'est vrai que c'est dingue, je le redis, mais on constate vraiment la diversité au sein de chaque poste, la diversité des actions, des missions au sein de chaque poste, déjà, elle est quand même assez énorme sur ses premiers postes et ses premières expériences-là.
Oui, et puis ça continue. Et ce qui m'a motivé pour rentrer dans le monde maritime, c'est précisément ça. C'est que c'est un monde extrêmement décloisonné. On va traiter dans l'administration de la mer, mais comme d'ailleurs les marins eux-mêmes, les armateurs eux-mêmes, de sujets qui, à terre, seraient complètement éparpillés entre différentes administrations. On a sur la mer cette nécessité d'avoir une vision transversale, intégrée des différentes problématiques. On ne peut pas faire et du droit d'un côté, du social de l'autre, on ne peut pas faire du technique et de l'économique de manière séparée, tout ça doit être lié. Et c'est ce qui est très intéressant, et ce qui est d'autant plus intéressant, on est dans un monde où on a justement tendance de plus en plus sur des métiers à sectoriser, à spécialiser, et donc à perdre la vision d'ensemble, la vision transversale qu'on a gardée dans nos métiers maritimes, que ce soit dans l'administration ou d'ailleurs pour les marins eux-mêmes. Il faut être un couteau suisse pour être marin aujourd'hui.
Et c'est vrai que c'est une notion qui revient beaucoup, notamment au travers des derniers épisodes avec des professionnels ou même avec un enseignant, qui explique vraiment que la mer aujourd'hui est un des derniers territoires vraiment décloisonnés et qui est un espace de liberté, en fait, qui cumule tous les aspects divers et variés du maritime sans qu'il y ait vraiment de barrière entre les bureaux, le terrain, etc.
Oui, tout à fait. Donc, c'était la fin de ma première expérience en service déconcentré. Et donc, du coup, j'ai été affecté ensuite sur Paris, où j'ai occupé trois postes. Alors, le premier était davantage, les deux premiers étaient plus sur nos fonctions support, sur les fonctions de l'administration elle-même. Mm-hmm. Le premier consistait à s'occuper de ce qu'on appelait notre dispositif de contrôle et de surveillance, les agents des affaires maritimes qui font du contrôle. Ça a été un moment d'un grand tournant. Ça a été le tournant où on a créé le centre en charge de la coordination de la police de l'environnement en mer.
D'accord.
Et ce centre qui va dans quelques mois maintenant avoir enfin une existence légale. Donc on voit toute la capacité qu'on peut avoir à semer des graines dans le temps quand on rentre dans ces métiers. Une partie du poste dans nos métiers est faite par l'agenda. L'agenda politique, l'agenda administratif, l'agenda réglementaire bruxellois. Mais il y a également une part d'initiative qui est très importante aussi pour les agents. Et j'invite vraiment tout le monde à se saisir de cette part d'initiative.
D'accord.
De là, ensuite, j'ai été sur un poste plus axé sur les ressources humaines, la gestion des compétences, la gestion des effectifs, la vie des services. Donc l'organisation même de notre administration.
D'accord.
Et puis, le dernier poste parisien a été comme chef de mission de la flotte de commerce. Donc là, beaucoup radicalement différent. C'est une très bonne interface entre l'administration centrale et les services déconcentrés, vu qu'on peut être l'interlocuteur direct des armateurs et de nos grands armateurs. mais on est également en lien direct avec l'élaboration de la loi, l'élaboration des règlements, et donc là, voilà. Un poste plus économique, axé davantage sur la compétitivité, sur l'attractivité des métiers de la mer, sur le développement du pavillon, mais également un poste qui m'a conduit à travailler à l'OMI et à négocier pour la France les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans les premiers cycles de négociations.
Donc toujours des missions qui font quand même, je constate, un gros lien entre une partie plus, on pourrait dire, terrain, et un lien avec le terrain assez concret, et un aspect plus administratif, entre guillemets, avec en termes de gestion et de centralisation des dossiers, en fait.
Oui, tout l'intérêt de nos métiers, c'est justement d'être ancré dans une connaissance technique. Alors, on ne l'a pas tout le temps et on ne l'a pas toutes. Mmh. Simplement, il faut savoir s'appuyer sur les gens qui l'ont. Il faut avoir les réseaux suffisants pour connaître au sein des professionnels, au sein de notre propre administration, les gens qui ont ces compétences, s'appuyer dessus, traduire ça en langage juridique. Et on passe notre temps en fait en micro-évolution. Les technologies évoluent, les besoins évoluent. Récemment, on a travaillé sur une réglementation sur les drones et les navires autonomes. Donc on voit bien que le cadre juridique passe son temps à s'adapter au cadre, à la réalité du monde économique qui bouge. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Il n'y a pas de bon cadre juridique dans l'absolu, il n'y a que des cadres juridiques qui s'adaptent, qui sont mouvants, qui changent, et surtout des cadres juridiques qui laissent pleinement cours à l'innovation. Une de nos préoccupations, c'est de faire évoluer un cadre juridique qui aujourd'hui était prescriptif, en sens d'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là, à un cadre qui est plutôt responsabilisant et qui va plutôt vers une obligation de résultat. Qu'importe la manière dont vous y prenez, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un résultat. Et par exemple, un résultat en matière de sécurité des navires, un résultat en termes d'exploitation de la ressource. Donc voilà, petit à petit, et c'est une évolution que doit faire l'administration, mais que doivent faire également les professionnels.
Est-ce que ça montre un peu le paradoxe? Parce que c'est vrai que dans l'image des métiers de la mer, du maritime en général, on a un peu cette image d'épinal de vieux loups de mer dans un petit port breton. Mmh. Alors qu'en fait, on voit que voilà, c'est un milieu qui bouge depuis des années tout le temps et qui est en constante adaptation, constante évolution. Et qui, voilà, on est bien loin aujourd'hui de cette image. On parlait de drones tout à l'heure.
On a encore nos vieux loups de mer dans les ports bretons, et heureusement, et c'est très bien. Mais effectivement, c'est d'abord, eux-mêmes ne correspondent pas forcément à l'image d'Épinal qu'on en a. Et puis effectivement, il y a d'autres choses. Et le monde maritime, c'est sûr, c'est les marins, et bien entendu. Et on s'en occupe beaucoup au niveau des dirmes. Mais l'économie maritime, ça va très au-delà de ça. L'économie maritime, c'est la construction navale. L'économie maritime, c'est les métiers d'armateur, c'est les métiers à terre également. Et puis, quand on dit marin, il y a mille et une réalités derrière la notion de marin. Entre le marin pêcheur, le marin embarqué au commerce, au long cours, le marin qui sera au commerce toujours, mais qui sera plus dans une approche côtière. Les marins que nous allons devoir former pour demain aller sur les champs éoliens dans une logique plus industrielle. Voilà, on voit bien que ça correspond à mille et un métiers.
Ouais, et plus ça va, et on a l'impression que plus ça s'étend aussi, plus les métiers se créent au fur et à mesure presque, au final.
Et exactement, les métiers sont en mouvement, je veux dire, comme ce que l'on doit faire au niveau réglementaire, les métiers eux-mêmes, ça s'adapte à la réalité économique en permanence.
Et là, on en arrive à votre poste actuel de directeur interrégional de la mer sud-atlantique, donc dans les bureaux ici à Bordeaux. Bureau d'ailleurs, alors pour ceux qui nous écoutent, qui est magnifique et qui, je crois, a une grande histoire.
Oui, alors c'est un peu une... Effectivement, ce bureau est absolument magnifique. Il date de 1764. C'est un peu une exception dans le monde maritime. Il traduit très très bien la continuité du maritime. C'est un bureau qui, à l'époque, a été construit par le ministre de Louis XV, M. Choiseul, dont le portrait, d'ailleurs, est présent juste à côté de nous. Il nous surveille.
Toujours pareil pour ceux qui nous écoutent. Très beau portrait, très grand portrait, majestueux.
Et donc, à une époque où la marine était à la fois civile et militaire, Et ce bâtiment, en fait, traduit très bien cette évolution dans le temps, vu qu'aujourd'hui, on a encore dans le bâtiment le commandant de la marine qui est toujours là, au sein de notre bâtiment, qui a toujours des locaux au sein de notre bâtiment. Et ce bâtiment, depuis 250 ans, est dédié à l'administration de la mer. Et dans le fond, beaucoup de choses ont changé. Mais c'est, je trouve, extrêmement intéressant d'avoir cette continuité de lieu.
Et une belle symbolique aussi.
Et une belle symbolique, oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu-là ? Donc à Bordeaux, c'est une direction interrégionale de la mer, même si depuis la réforme des régions, elle ne recoupe aujourd'hui plus qu'une seule région, la région Nouvelle-Aquitaine. C'est l'organisation administrative française qui est comme ça. On est parti du principe que la gestion maritime devait se réguler en façades maritimes, ce qu'on appelle les façades. En France, on en a, en France métropolitaine, on en a quatre. La façade sud-atlantique qui s'étend sur la région Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Charente-Maritime. La direction, donc la façade et donc la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche-Ouest qui commence en Vendée et qui termine à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. La direction interrégionale de la mer Manche-Est-Mer du Nord, qui elle, occupe le territoire des Normandies, et puis la direction interrégionale de la mer Méditerranée, voilà, avec la création récente d'une direction en Corse également.
D'accord.
Sur certaines parties des compétences, une direction régionale sur certaines parties des compétences. Donc, quels sont les métiers ? C'est des métiers qui sont très complémentaires avec ce que font les directions au niveau départemental, hein, les DDTM. Donc, les métiers d'une DIRM, bah, c'est beaucoup, dans un premier temps, les métiers de la sécurité de la navigation.
D'accord.
Donc, ça commence avec les phares et balises, tout le balisage, l'entretien des phares et balises, les informations aux marins sur sur les avis urgents aux navigateurs et d'éventuelles différences qu'il y aurait entre la cartographie et la réalité du balisage, les phares et balises, dont nous avons trois centres sur la direction sud-atlantique, un centre à La Rochelle, un centre au Verdon et également un centre à Anglette, dans le sud de la région.
Donc sur l'ensemble de la façade.
Sur l'ensemble de la façade qui est couverte. On a à peu près 1000 ce qu'on appelle établissements de signalisation maritime qui vont du grand phare de Cordouan, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière, à un petit espar qui peut représenter un espar de chenalage dans un canal ou indiquer un danger isolé. Voilà, donc une très grande diversité.
D'accord, oui.
Voilà, à peu près un millier. À côté de ça, on a en complément, on a un service de la sécurité des navires. Donc deux centres de sécurité de navires, un à Bordeaux avec une antenne dans le sud et une antenne à Arcachon, et puis un à La Rochelle également. Donc eux, ils ont deux grandes fonctions. La première, c'est de suivre la construction des navires sous pavillon français et d'agréer et de valider leur construction au regard de notre réglementation. Et puis également de contrôler les navires étrangers qui font escale dans nos ports au titre d'un accord international qu'on appelle le Mémorandum de Paris. Et là, on va contrôler ces navires étrangers au regard de la réglementation internationale. Et on va également contrôler, et c'est assez récent, les émissions de polluants de ces navires.
D'accord.
Et donc la teneur en soufre et en oxyde d'azote des émissions de ces navires et du carburant qu'ils utilisent.
D'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure, c'est toujours un sujet qui revient, mais l'environnement, ce souci au niveau du maritime, c'est vrai qu'on constate que c'est quelque chose qui est présent un peu partout aujourd'hui. On le voit, vous en parliez avec les éoliennes, les nouveaux métiers sur l'implantation des éoliennes, le contrôle des émissions. Et on voit que c'est vraiment une question centrale aujourd'hui du maritime, presque.
Complètement centrale, tel point qu'elle est complètement centrale, enfin transversale aux différents métiers qu'on a. Alors, on a vu que les inspecteurs de la sécurité des navires, évidemment, faisaient une partie de leur activité en police de l'environnement. Mais nous avons également un service qui est dédié au contrôle en mer, avec deux volets au niveau de la DIRM. Un volet coordination des unités qui font du contrôle. Les affaires maritimes ne sont pas les seules unités qui interviennent en mer. Nous travaillons grâce à la gendarmerie, par exemple, grâce aux douanes, grâce également aux unités de contrôle des parcs naturels. Et avec eux, donc, on fait deux choses, on coordonne deux projets. Le premier, c'est la police des pêches, et le deuxième, c'est la police de l'environnement, justement, précisément, vu qu'on en parlait. La direction interrégionale y contribue directement avec un moyen hauturier, qui est le patrouilleur des affaires maritimes Iris, qui a deux bordées, qui est basé à La Rochelle, et qui, lui, est capable d'aller faire du contrôle au large. Et donc, effectivement, dans ces missions, on a de la police des pêches, on a de la police également de ce qu'on appelait avant le rôle d'équipage, qui est maintenant le permis d'armement, qui est une police plus économique et sociale. Et puis, on a la police de l'environnement.
Je crois que vous avez aussi un gros aspect sur la formation, pour le coup, de nos futurs marins. Et...
Alors voilà, donc c'est le deuxième versant, enfin un autre versant, on va dire, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus que deux. Et effectivement, c'est le volet gens de mer, donc la formation des gens de mer. Donc la DIRM est autorité académique des lycées maritimes, les DIRM de manière générale, et la DIRM Sud-Atlantique de deux lycées, un à Cibourg et un à La Rochelle. Au même titre que d'ailleurs, nos collègues de l'agriculture sont autorité académique des lycées agricoles.
D'accord.
Voilà. Et donc, au-delà de ces deux lycées, il y a aussi toute la délivrance des brevets des marins. On voit bien l'idée d'avoir une chaîne complète, une vision à peu près complète ou transversale du monde maritime.
Oui, c'est que la DIRM accompagne un jeune, par exemple, qui va rentrer en formation maritime, qui va ensuite devenir certainement professionnel et évoluer dans ce milieu-là. Après, il aura toujours un accompagnement en soi de la DIRM, mais un contact plus ou moins appuyé avec la DIRM.
C'est tellement vrai d'ailleurs que les marins, donc profession suivie, encadrée, doivent par exemple passer une visite médicale. Cette visite médicale est faite auprès du service des gens de médecine des gens de mer, qui est précisément dont le siège est positionné également à la DIRM, même s'il y a des antennes sur le reste de la façade pour voir les marins. Donc oui, effectivement, une très grande proximité avec les usagers de la mer et les marins en particulier. Et puis, à côté de ça, nous avons d'autres pans dans le travail. Il y a tout le volet économie maritime et en particulier économie des pêches. Et puis, il y a le volet accès à la ressource, réglementation, donc il y a de réglementation des pêches. La DIRM agit au nom d'autorités extrêmement variées. Par exemple, je parlais de la réglementation des pêches, l'accès à la ressource, etc. La DIRM agit pour et en délégation de la préfète de région, en l'occurrence, mais en matière de phare et balise, de sécurité des navires, de formation des gens de mer, on intervient directement par délégation de la ministre. Donc on a des autorités, un service est toujours sous une autorité en général. La particularité de nos services, c'est d'avoir précisément plusieurs autorités en fonction des thématiques. Et le préfet maritime, donc également, en matière d'environnement, mais en matière de sécurité de la navigation également. Donc du coup, dernier point également de nos activités au sein de la DIRM, c'est la planification en mer. Et ça, c'est essentiel, c'est peut-être l'activité la plus récente, c'est la multiplication des usages de la mer.
Oui.
Donc on a les usages traditionnels, qui sont la pêche, le commerce. On a un usage qui est maintenant de plus en plus traditionnel, même s'il est relativement récent à l'échelle du temps long, qui sont les activités de plaisance, de loisirs nautiques, usage de la plage. Et puis on a nos futures activités qui sont l'éolien et voilà. Et tout ça se mêle avec une préoccupation croissante par rapport aux sujets environnementaux, par rapport au sujet de qualité des eaux, par rapport au sujet de préservation de la ressource et de l'environnement. Et tout ce travail de planification, toute cette réflexion, c'est précisément ça. C'est comment concilier les usages, comment concilier les usages entre eux et ces usages avec les problématiques environnementales.
D'accord.
Et donc, ça débouche sur un document de planification, qui est le document stratégique de façade. Ça débouche aussi sur des actions extrêmement concrètes. Et puis, ça débouche sur beaucoup d'échanges avec les différents acteurs.
Oui, acteurs nombreux. Comme on l'a évoqué, c'est vrai que voilà, ça, il y a vraiment une grande toile en fait entre tous les acteurs du maritime qui dans la gestion quotidienne de l'univers.
Tout à fait, c'est un monde qui est à la fois très diversifié et en même temps relié par ce milieu qui est la mer. Et plus les rencontres seront nombreuses entre les acteurs du maritime, plus riches seront les initiatives, les politiques publiques et notre manière de valoriser ce magnifique patrimoine.
Donc on va revenir rapidement sur un point de vue plus personnel, mais vous, quelle est votre perception de l'univers maritime et en quoi, selon vous, le maritime a changé depuis que, même si on l'a rapidement évoqué, depuis que vous êtes rentré dans cet univers-là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous en ressentez aujourd'hui et qu'est-ce qui, selon vous, a évolué, alors en bien ou en mal d'ailleurs, mais quelles ont été les évolutions dans ce milieu-là?
Alors, peut-être au niveau macro déjà, il y a des choses qui, pour moi, ont évolué en pas très positif, ou du moins, je perçois un certain éloignement du monde maritime par rapport à nos citoyens. Tout simplement, les ports avant étaient dans le centre des villes. Les ports faisaient entièrement partie de l'activité marchande, commerçante, et ont même structuré notre paysage urbain. Aujourd'hui, quelque part, les ports sont davantage éloignés, sont protégés par des mesures, par les normes de sécurité. Et donc, quelque part, les ports se sont éloignés de nos concitoyens. Et le maritime est parfois devenu un symbole d'une mondialisation. Enfin, le maritime commerce, oui, est devenu parfois le symbole d'une mondialisation qui effraie. Il n'en est pas du tout le symbole, il n'en est pas non plus le symptôme. Il est peut-être ce qui a permis, d'ailleurs, à tous ces échanges de se multiplier. Et c'est extrêmement intéressant de franchir par moments ces barrières et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'un navire. Et effectivement, à l'intérieur d'un navire, il y a une très grande de mixité des gens qui sont là. Et on rentre dans des univers culturels qui sont extrêmement intéressants, je trouve. Et ce découplage géographique fait que ce n'est plus notre quotidien que de voir cette diversité culturelle des marins. Et ça, je regrette quelque part. Ça nous éloigne un peu de cette réalité maritime.
Cette réalité maritime qui est quand même importante pour les auditeurs. Je donne une statistique rapide comme ça, mais plus de 90% des marchandises mondiales circulent par voie maritime ou fluviale ou navale. C'est vrai que quand on parle d'importance du maritime dans nos vies et nos vies quotidiennes, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est plus une activité de pêche et un port de pêche. Aujourd'hui, on parle d'activité maritime en général et les trois quarts des objets que vous retrouverez autour de vous à l'écoute de ce podcast ont été transportés par voie maritime. Donc n'hésitez pas à remettre l'importance du maritime en jeu dans vos vies.
Oui, alors, et puis ensuite, on a, donc je disais, ce maritime symbole un peu de la mondialisation, ça peut être un peu parfois le symbole d'une certaine forme de dérégulation, et à l'inverse, au contraire, quand on le connaît, le maritime est peut-être un des espaces économiques les plus régulés dans notre mondialisation aujourd'hui, grâce à l'Organisation Maritime Internationale, par exemple, qui encadre, avec une très grande efficacité, notre réalité maritime mondiale, mais également grâce à l'OIT, à l'Organisation Internationale du Travail à Genève, qui, elle, travaille sur les conditions sociales d'exercice de cette activité. Et donc, c'est peut-être, d'ailleurs, le maritime, dans l'histoire, a montré souvent le « là » et a été à l'initiative de choses qui nous paraissent tout à fait évidentes aujourd'hui. Le mécanisme même des assurances vient du maritime, le mécanisme de la banque, en grande partie, vient du maritime, tous les mécanismes de prévention, viennent en grande partie du maritime. J'allais dire, le maritime est en train de nous montrer aussi qu'on peut avoir, dans notre monde aujourd'hui très, très ouvert, très mondialisé, une forme de régulation internationale qui fonctionne.
Il y a quelque chose d'assez universel au final.
Ah oui, c'est sûr, on ne se rend pas compte à quel point le secteur maritime a façonné en grande partie nos sociétés. Que toute l'ingéniosité qu'il a fallu développer pour rendre possible les expéditions maritimes, par exemple, a énormément façonné la réalité de nos sociétés d'aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce qui me surprend aussi en termes d'évolution ? C'est qu'on a de plus en plus d'acteurs, c'est que le secteur maritime s'ouvre aujourd'hui considérablement, qu'on voit des initiatives dans tous les sens, les secteurs les plus traditionnels évoluent considérablement. La pêche n'est absolument pas un secteur statique. On voit, par exemple, comment la commercialisation évolue, toutes les questions autour de la valorisation également, phénomène qu'on a connu également dans l'ostréiculture. Donc, c'est-à-dire, il y a un réel dynamisme, y compris des filières traditionnelles. Et puis, on a de nouvelles activités qui viennent. On voit les usages de la mer pour... Quand j'ai commencé, je faisais de la planche à voile. Je veux dire, la planche à voile aujourd'hui, mais maintenant on voit du kitesurf, on voit toute autre forme d'activité. On voit que tout le monde s'empare quelque part du maritime avec d'autres outils, d'autres instruments.
Ouais, d'autres usages.
D'autres usages, et que ça se multiplie et que d'année en année, en fait, on voit la multiplication de ces usages. Et donc ça, je trouve tout à fait passionnant. Et puis, on a cette idée aussi que la mer, l'océan, et on s'en rend compte de plus en plus, est un espace essentiel dans la régulation macro, dans la régulation du climat, dans la régulation des flux d'air, et qu'il faut y avoir une particulière attention dont on n'était peut-être pas aussi conscient, ou d'au moins aussi conscient dans des cercles qui étaient restreints.
Ouais.
Et aujourd'hui, cette conscience s'élargit et c'est extrêmement bien que ça se fasse, qu'on prenne conscience de tous les services écosystémiques que rend les océans. Et à côté de ça, et ben d'autres activités telles que l'éolien, et on se dit que peut-être effectivement la mer est l'avenir de la Terre.
Donc là, justement, on vient de passer en revue toute la richesse du maritime, tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire ou sur l'impact que ça a aujourd'hui, ou la richesse du nombre de travailleurs du maritime sur tous les domaines que ce soit. Et ça pose la question aussi, et là on s'adresse plus aux plus jeunes qui nous écoutent, qui pourraient ou voudraient s'engager dans le maritime. Donc là, on a vu qu'il y avait plein de possibilités pour travailler de près ou de loin sur le maritime. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et pour motiver et vraiment inviter la jeunesse à s'emparer de cette question maritime et s'orienter vers le maritime?
Ça, pour le coup, je pense qu'il y a un invariant qui prend de plus en plus de valeur dans le monde dans lequel on est, c'est la transversalité dont on parlait. Mmh. Le secteur maritime permet de faire des carrières avec une vision d'ensemble. Quel que soit le bout par lequel on rentre, quel que soit le niveau par lequel on rentre, on a toujours un espace qui est ouvert, soit d'évolution, soit de diversification. On est toujours sur des métiers qui nous imposent d'avoir une vision d'ensemble, là où la tendance est plutôt d'avoir des métiers qui se rétrécissent sur des fonctions très particulières, dans une chaîne sur laquelle on ne voit pas le sens qu'a notre action directe. Je parlais d'esprit d'initiative tout à l'heure. Je disais que même au sein de cette administration de la mer, il fallait qu'on prenne des initiatives. Je pense que c'est le propre de chaque personne travaillant dans ce milieu maritime de mettre sa griffe, d'être capable de pouvoir faire monde d'initiatives et de mettre un peu de ce qu'il est.
Mm.
Et ce sont des métiers dans lesquels on peut arriver avec ce qu'on est et imprimer sa marque aussi avec ce qu'on est. Parce qu'il y a tellement à faire que le choix de ce qu'il y a à faire relève du choix presque individuel.
Ouais.
Et moi, ce qui me semble être la source de motivation la plus grande pour entrer dans ce secteur-là, et ben c'est quelque part cette transversalité, cette capacité qu'offre le maritime d'ouverture.
Mm.
Et puis, il y a quand même aussi quelque chose, c'est que c'est une magnifique école, le maritime. C'est une école de la vie. Quand je vois nos officiers de la marine marchande qui sortent, quand je vois nos matelots qui sortent, quand je vois le niveau de responsabilité qu'ils ont, à l'âge qu'ils ont, sur leur navire, éloigné, en situation isolée parfois, même très souvent, en situation isolée, ils sont quelque part obligés d'être responsables. Ils n'ont pas le choix.
Oui,
c'est... Et donc, ils sont obligés de prendre des initiatives là où ils sont et d'être responsables là où ils sont. Et c'est une magnifique école de la vie. Et je pense que les gens qui souhaiteraient avoir des carrières, ou ne serait-ce que commencer par une carrière maritime, pour la poursuivre ou pour après faire tout à fait autre chose, ne perdront pas leur temps à faire ça. Et ils auront, je pense, un niveau d'expérience personnelle, un niveau de responsabilité tôt, qu'on trouve rarement dans deux secteurs.
Mmh. C'est vrai que là, quand on vous entend, on sent que déjà, il y a un réel aspect promotion sociale au final, et puis un aspect diversité, c'est-à-dire que vous le dites, on peut commencer sa carrière en mer ou dans le maritime et revenir à terre après, et avec une réelle promotion sociale, un réel niveau d'exigence et un niveau de capacité, de compétence qui est nettement élevé. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les valeurs qu'on gagne dans le maritime, au-delà de l'école de la vie qui est évident, c'est la promotion sociale, la diversification des acquis? Voilà, c'est ce genre d'aspect-là.
Oui, alors, on a toujours été vigilants dans le secteur du maritime, mais dans toutes les marines, que ce soit la marine d'ailleurs militaire, la marine civile, à ce que la promotion soit tout le temps possible. Et il est tout à fait possible de rentrer matelot et de continuer à se former tout au long de sa vie. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir continuer jusqu'à une école d'ingénieur très directement. Puis tout le monde n'en a pas forcément envie non plus, au moment où ça se présente. Et puis, c'est parfois en travaillant qu'on se dit, bah, finalement, j'en ai envie. Dans le fond, et puis j'en ai la possibilité, et puis je prends confiance en moi. Et puis, on a cette chance de pouvoir continuer, de pouvoir y revenir. Les formations sont construites pour s'imbriquer les unes les autres, ce qui fait qu'en fait, on peut être sur un schéma d'évolution de carrière. Et puis, comme vous l'avez dit, on peut également choisir de revenir à terre en ayant accumulé des compétences, des expériences qui sont tout à fait valorisables.
On va s'arrêter là parce qu'on a, on a créé un épisode spécial absolument magnifique. Et tant mieux, parce qu'il est d'une richesse. Je pense que je vous invite vraiment à l'écouter, à le réécouter, parce que je pense que là, on a fait un balayage sur l'ensemble de l'univers maritime qui est assez important et assez concret. Donc merci infiniment de nous avoir reçus ici dans le centre.
Merci à vous.
Des bureaux de la DIRM, donc la Direction Interrégionale de la Mer. Donc si d'ailleurs vous voulez vous renseigner sur, sur les métiers et sur qu'est-ce qu'est la DIRM, n'hésitez pas à aller sur le site de la DIRM SA. Donc vous le retrouverez rapidement sur Google en tapant DIRM, plus loin SEA. N'hésitez pas à vous renseigner. Et si vous voulez vous renseigner sur les formations, ben je vous invite à revenir sur le site du lycée maritime de Cibourg qui vous donnera toutes les informations. Voilà. Sur la formation ou la réorientation pour les adultes qui voudraient se réorienter dans un schéma plus professionnel dans le maritime.
Voilà, puis j'ajouterais pour ceux parmi vous qui seraient intéressés par des carrières au sein de l'administration de la mer, que bien entendu, alors dans la limite de notre espace et des sujets intéressants qu'on a à proposer, mais nous recevons régulièrement des stagiaires. Et donc, s'il y a des demandes de stage, nous les regarderons avec beaucoup d'attention.
Voilà, bah on diffuse le message, voilà. Mais appel aux volontaires, n'hésitez plus. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous remercie d'avoir écouté toute cette série de podcasts sur le maritime en espérant qu'on ait pu créer des vocations ou de la curiosité chez vous sur nos questions qui nous animent tous les jours.